De retour aux amateurs de sport, et c'est un invité de marque que nous recevons ce soir aux amateurs de sport. Des fois, on fait un grand état d'une conférence de presse, de l'annonce d'un projet, la poussière retombe, puis on prend pas de nouvelles tant que ça. Puis je pense que le timing pour prendre des nouvelles de la démarche visant à amener une équipe de basketball à Montréal, dans la vague provoquée par le tir gagnant de Kawhi Leonard dimanche soir, dans le fait que les Raptors accèdent à la troisième ronde, je pense que c'est un bon moment pour prendre des nouvelles de cette démarche-là, initiée, dévoilée par l'avocat et banquier de RBC, Michael Fortier, qui était flanqué de Kevin Gilmore et du président de la Chambre de commerce en octobre dernier lors de la conférence de presse. Et M. Fortier, bien, a eu la gentillesse de se déplacer dans nos studios. Michael Fortier, bonsoir.
Bonsoir.
Avez-vous regardé ça dimanche soir, vous, la victoire des Raptors?
Absolument, absolument. Oui. J'étais avec deux de mes enfants et on a regardé ça du jump ball jusqu'au lancer gagnant, au tir gagnant de Kawhi.
Puis trouvez-vous que c'est un bon timing que ça nous procure pour parler de basketball puis du projet? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que, depuis votre conférence de presse en octobre, est-ce qu'il y a eu des avancées dans l'ombre par rapport à tout ça?
Ben oui, je comprends votre timing de vouloir m'inviter. Je l'apprécie. Comme on a dit en octobre, nous, on va revenir, quand on reviendra devant les Montréalais, devant les médias, c'est quand on aura assemblé tout le montage financier. Alors oui, on a fait des progrès. On est en discussion avec plusieurs groupes pour monter essentiellement tout le côté financier. Mais le défi pour nous va demeurer, comme je le disais en octobre dernier, de convaincre la Ligue, le moment venu, que Montréal, elle est une candidate qui est aussi idéale pour la Ligue et les propriétaires que peut l'être Seattle, que peut l'être Vegas, que peut l'être une autre équipe dans les Carolines. Alors, ça va être ça notre défi quand l'expansion va être annoncée, le jour où ce sera annoncé.
Est-ce que le fait d'avoir annoncé publiquement vos intentions en octobre dernier, ça a provoqué des choses?
Ben, c'est sûr que la Ligue savait qu'on avait un intérêt. J'ai souvent parlé au commissaire. On a fait ça durant la venue des Raptors pour leur match hors concours ici à Montréal. Oui, la Ligue est au courant. Larry Tannenbaum, qui est le président de MLSC et qui est le gouverneur pour la NBA, était au match à Montréal. J'avais prévenu Larry. Et lui, il nous a dit que lui, évidemment, toute autre chose étant par ailleurs égale, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a l'argent, il y a les autres propriétaires. Mais M. Tannenbaum a été très clair avec nous que si une autre équipe s'installait au Canada, lui, il serait en faveur. Lui, il souhaite avoir une autre équipe au Canada.
C'est important, ça, quand même, de les avoir comme alliés.
Pour moi, c'est très important que les Raptors ne soient pas en défaveur. Parce que moi,
comme les Blue Jays par rapport aux Expos.
Tout à fait. Moi, je le crois parce qu'ils voient très bien, entre autres, avec les Leafs et le Canadien, comment cette rivalité-là est bonne pour le hockey, elle est très saine pour nous tous au Canada. Alors, il peut très bien s'imaginer qu'une rivalité au basket entre les Raptors et une équipe à Montréal serait formidable pour le basket en général, mais surtout pour le basket au Canada.
Lors de l'annonce de vos intentions, vous aviez déjà identifié un investisseur potentiel en la personne de Stéphane Chrétien de Garda World qui pourrait investir une somme allant de 150 à 200 millions de dollars. On verra le temps venu. Mais j'étais curieux de savoir, je reviens à la charge finalement, est-ce que d'annoncer vos intentions publiquement, est-ce que ça fait sortir des gens du garde-robe que vous ne connaissiez pas, dont vous ne doutiez pas d'un intérêt potentiel et d'une capacité d'investir?
Honnêtement, non. Parce que, pour être honnête, les chèques, comme on l'a dit, je le répète ce soir, ce ne sera pas un grand nombre d'investisseurs qui seront autour de ce projet. D'abord, M. Chrétien va être là à la hauteur de 200 millions US. Et M. Chrétien ne veut pas faire partie d'un groupe. Et nous, on ne pense pas que c'est la meilleure façon d'approcher ça au niveau de la gouvernance, d'avoir un très grand nombre d'investisseurs. Nous, on voit 3-4 investisseurs au maximum. Et les gens qui ont cet argent et qui s'intéressent au sport professionnel, on les connaît. Il y en a plusieurs qu'on a déjà approchés. Certains sont en phase de réflexion. D'autres nous ont dit, on vous parlera peut-être plus tard quand on connaîtra mieux les plans de la Ligue. Parce que pour l'instant, la Ligue dit, on n'a pas de plan d'expansion. Alors, vous pouvez venir frapper à notre porte tous les jeudis de chaque mois, si vous voulez. Mais nous, on n'a rien à vous dire parce qu'on n'a pas de plan. Alors, on a donc deux genres d'investisseurs, ceux qui nous parlent et ceux qui vont nous parler plus tard. Alors, nous, on est dans une phase où, comme je vous disais tantôt, on essaie de monter le plan financier le plus rapidement possible. Et je pense qu'on va être capable de le faire sans nécessairement être obligé d'attendre ceux qui veulent attendre plus tard. Parce que moi, je ne veux pas attendre... À la dernière minute, moi, mon plan, ça a toujours été d'annoncer qu'on a au moins 2 milliards de dollars US. Et quand on l'aura, d'annoncer c'est qui. Et pour mettre la Ligue en garde, pas en garde de façon agressive, mais juste la prévenir. On est sérieux, on a les sous. Voici qui sont nos trois investisseurs principaux. Vous pouvez faire toutes les enquêtes sur eux comme vous le souhaiterez. Ce sont des gens qui sont bien connus. Ce sont des gens qui ont connu des succès dans leur milieu respectif. Bref, moi, je ne veux pas attendre à la dernière minute pour faire ça. Pour pouvoir profiter aussi du rayonnement de ces investisseurs-là, au fil des mois et des années, peut-être que ça va nous prendre pour avoir une annonce d'expansion, pour qu'eux-mêmes puissent faire rayonner Montréal. Le grand défi pour Montréal, c'est de vendre Montréal. Alors nous, on le sait, on habite à Montréal, il y a un momentum exceptionnel dans notre ville. Notre ville, il n'a jamais fait aussi bon vivre à Montréal, selon moi, malgré les cônes oranges. Je sais qu'il y a des gens qui doivent dire, voyons donc, il est fou, lui. La réalité, c'est que l'économie va bien dans notre ville. Et je vous demande à tout le monde de se projeter dans 4 ou 5 ans, quand on aura fini les travaux de construction.
On
aura une ville, honnêtement, de catégorie 3A. Et on l'a déjà au niveau intellectuel, on l'a déjà au niveau artistique. Et nous, c'est ça qu'il faut vendre à la Ligue. Parce que malheureusement, dans la Ligue et autour de la Ligue, il y a encore du monde qui voit Montréal d'il y a 20 ans. 20, 25 ans.
Le Montréal qui a laissé partir les expos, le Québec qui a laissé partir les Nordiques.
Le jour après le référendum, quelqu'un est venu, il a vu 3-4 magasins placardés. Vous comprenez ce que je veux dire? Là?
Ah, ouais.
Il faut actualiser...
Les vieilles perceptions.
Les vieilles perceptions. Et ça, ben, quand on joue contre Seattle, quand on joue contre Vegas, c'est tough. Et donc, moi, plus j'ai de temps à vendre Montréal, mieux c'est pour moi.
Vous avez parlé de, en quelque sorte, de deux profils, deux catégories d'investisseurs, ceux qui voudraient peut-être se manifester plus tard et ceux avec qui vous pouvez parler tout de suite. À quelle partie, à quel groupe appartient Jeff Molson, compte tenu qu'ils sont propriétaires de l'amphithéâtre dans lequel, on présume, vous évolueriez?
Tout à fait. Alors, Jeff et le Canadien, c'est, je vous dirais que c'est dans une troisième enveloppe où lui, essentiellement, et son club sont propriétaires de l'édifice, là où on va jouer. Il est hors de question. Hors de question de bâtir un autre édifice. Si jamais on ne pouvait pas jouer au Centre Bell, il n'y aurait pas d'équipe. Moi, je ne veux pas embarquer dans un projet où on demande aux payeurs de taxes de nous offrir, de nous prêter de l'argent qu'on va rembourser en 50 ans. Il n'est pas question. On a déjà un endroit pour jouer. Il suffit de s'entendre avec M. Molson. Et moi, je suis convaincu que les trois ou les quatre propriétaires, au moment où ils s'assoiront avec M. Molson, pour discuter d'un bail pour le Centre Bell pour jouer nos matchs. Je suis convaincu qu'ils auront une discussion avec lui à ce moment-là sur la participation des Canadiens dans une, pour une partie de l'équité. Mais on est
avez-vous déjà eu cette discussion-là, vous, préliminaire avec Jeff Molson, ne serait-ce qu'à bâton rompu,
mais
quand
non,
même?
Non, pas,
vous
mais
pouvez
lui-même
pas vous croiser
dit.
Dans une même place puis pas en parler?
Non, non, on a eu des discussions, mais pour lui, puis je le comprends, il n'y a pas besoin d'avoir la discussion maintenant. Lui, il a l'immeuble. Et,
il y a des dates à louer?
Lui, il y a quelqu'un, moi, et M. Leblanc et M. Gilmore, qui essentiellement sommes en train de monter l'équipe d'actionnaires. Et quand on aura fini le travail, ben, ces gens-là iront à la rencontre de M. Molson. Et lui aussi a le droit de savoir avec qui il va faire affaire. Peut-être qu'il voudra bien louer 45 soirs par année, mais peut-être qu'il ne voudra pas faire partie du groupe d'actionnaires. Ou à l'inverse, peut-être le voudra-t-il, mais il n'est pas obligé de se manifester maintenant.
Non, il pourrait seulement être le locateur et ça serait correct.
Oui.
Vous parlez donc d'une somme de 2 milliards que vous souhaitez réunir, l'annoncer quand ça sera le cas. Vous parlez de 3 ou 4 investisseurs. Vous parlez de Stéphane Crétier comme un investisseur à 200 millions de dollars. Donc, si je décode là entre les lignes, donc vous parlez d'un groupe de 3-4 investisseurs pour 2 milliards de dollars.
Absolument.
Donc, et vous semblez assez confiant quand je vous entends parler. On dirait que vous les voyez, ces investisseurs-là.
Oui.
Vous savez
oui.
de qui oui. vous parlez. Là.
C'est oui, juste... je les vois. Il en reste quelques-uns à convaincre. On a beaucoup de travail à faire. Mais le basket, c'est un sport qui a le vent dans les voiles. Puis pas juste parce que Kawhi Leonard a marqué
non.
un 3 points
non, non, non.
Phénoménal dimanche soir. Le basket a le vent dans les voiles depuis longtemps. Et donc, moi, je suis pas surpris de voir l'engouement partout sur la planète pour des gens qui s'intéressent à être propriétaire d'une équipe de la NBA. Moi, ça me surprend pas.
2 milliards de dollars, donc, réunis par 3-4 investisseurs. Bon, peut-être un de plus. Il faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Mais est-ce que les gens que vous visualisez dans ce groupe-là sont des Canadiens, des Québécois ou de l'argent qui pourrait venir également de l'extérieur du pays?
Monsieur Crétier, on l'a dit quand on l'a annoncé, Monsieur Crétier sera probablement le seul Québécois et fort probablement le seul Canadien dans le groupe. Pas qu'on n'en veut pas d'autres. On a eu des discussions préliminaires avec certains groupes. certaines personnes très fortunées. On l'a fait parce qu'on en connaissait. On est de Montréal. Alors, on a rencontré certaines personnes. On a rencontré des gens aussi à l'extérieur du Québec.
Donc, l'intérêt est moins là chez les fortunes du Québec?
Il est moins là. Il est là, mais je vous dirais, c'est plus sur des tranches plus modestes. Et le film dans lequel M. Chrétier veut jouer, puis moi, je pense que le film dans lequel la gouvernance de cette équipe devrait jouer, c'est pas un film comme les Expos à 14 propriétaires. C'est un film
bien
à 3-4. Et 3-4, mais là, on parle de chèques très importants. Et il y a des gens qui sont prêts à faire des chèques plus modestes.
Donc, des gens de l'extérieur sont prêts à venir investir des sommes aussi colossales ici à Montréal?
Absolument. Oui, mais Montréal, encore là, on en parlait tantôt, le momentum, même si des gens autour de la Ligue n'ont pas encore vu le développement phénoménal de notre ville, il y a d'autres investisseurs qui ont pris acte.
Vous faites une comparaison entre la structure qu'avaient les Expos à l'époque et celle que vous souhaitez. Et si on se projetait dans un scénario très optimiste où la NBA débarque à Montréal, dans 10 ans d'ici, ou peu importe, là, une équipe de baseball, une équipe de basketball, une équipe de hockey, une équipe de soccer... Et le football, évidemment, c'est des budgets d'une moindre mesure parce que c'est la Ligue canadienne. Pensez-vous que tout ça peut vivre dans des entités différentes où, à un moment donné, on est condamné à avoir une structure qui englobe tout ça un peu sur le modèle de Tenenbaum à Toronto et Maple Leaf Sports and Entertainment? Comment vous voyez l'avenir pour que tout ça soit possible et viable?
Ben moi, je pense que toutes ces entités vont prendre des décisions l'une indépendamment de l'autre. Donc, M. Molson, il est déjà assis sur un trésor comme actif. Les gens qui vont amener le baseball prennent leurs décisions basées uniquement sur le baseball. Et les gens qui vont investir dans notre projet de la NBA, si on a une équipe, ils investissent pas parce qu'ils pensent qu'un jour, ils vont être propriétaires des Canadiens. Ils savent que ce sera impossible. Eux vont investir sur la foi du rendement de l'investissement sur le basket. Est-ce que dans 10, 20, 30 ans, il y aura eu des mouvements, une consolidation à Montréal où l'une sera propriétaire de l'autre, j'en ai aucune idée. Mais individuellement, votre question est bonne parce que je ne pense pas qu'il faut croire que la seule façon que toutes ces équipes peuvent vivre et bien vivre chez nous, c'est qu'elles doivent vivre sous le même toit. Moi, je ne crois pas à ça. Je vous l'ai dit quand je suis venu vous voir en octobre, notre ville s'est beaucoup enrichie au fil des 25 dernières années. Le pouvoir discrétionnaire, l'argent que les Montréalais ont dans leur poche et les Québécois et les Américains qui sont dans les États limitrophes du Québec, on a accès à énormément d'argent. Il faut amener un bon produit. Là, les gens vont décider par rapport au produit, mais ils se sont enrichis. Ils sont capables de se payer des sorties. Ils sont capables de se payer du hockey mardi puis du basket samedi. Est-ce qu'ils sont capables de se payer 4 billets de saison des deux équipes? Les plus fortunés, oui. Mais il y a assez de monde au Québec et autour du Québec pour faire vivre une équipe de basket, une équipe de baseball, puis une équipe de hockey. Ça, j'en ai aucun doute.
Bien, ce sont des propos fort encourageants de la part d'un banquier. Vous êtes attaché, bien sûr, à la banque RBC, avocat. Vous êtes un ancien ministre conservateur. Et je m'en voudrais de vous laisser quitter nos studios aujourd'hui sans quand même, par la bande, vous lancer quand même un petit coup de chapeau parce que l'inauguration à laquelle on a procédé aujourd'hui avec les paddocks du circuit Gilles Villeneuve sur l'île Notre-Dame, bien, il y a un peu pas mal de vous là-dedans. Vous avez été un intermédiaire très précieux dans la réconciliation entre Montréal et Bernie Ecclestone. Il faut remonter à 2009, l'année où on a perdu notre Grand Prix. Ça vous fait quelque chose de voir qu'on est tout près d'avoir complété les travaux aujourd'hui?
Ah non, je suis très ravi. Je suis très content pour François Dumontier, très content pour lui qui a travaillé si fort. Et les paddocks, c'est le deuxième contrat que j'ai négocié. C'est la dernière chose que j'ai négocié avec Ecclestone avant qu'on lui monte la porte quand Liberty Media a acheté. Et honnêtement, cette négociation-là a été beaucoup plus facile. Bernie, on aurait dit qu'il sentait la fin proche et il a été beaucoup plus raisonnable avec nous dans ses demandes. Et grâce à ça, et grâce au fait qu'il nous a pas mis le couteau à la gorge, on réussit à avoir aujourd'hui ces garages. Finalement, on est rentré dans le 21e siècle, on a rattrapé tout le monde. Et pour François Dumontier et son équipe, qui font un travail formidable, d'avoir ces nouveaux actifs, je pourrais pas être plus content pour lui et pour Montréal aussi.
Michael Fortier, merci beaucoup de cette visite dans nos studios. C'est fort apprécié. J'ai bien aimé cette mise à jour. Et puis, on rêve déjà au jour où vous allez nous annoncer que le 2 milliards est en banque. On dirait que c'est pas si loin que ça. Je sais pas.
On verra.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Et bonne fin de série au basketball. Les Raptors contre les Bucks en finale de conférence. Et nous, on revient dans quelques instants. Place à Danny Dubé qui va commenter la victoire des Bruins hier sur les Hurricanes de la Caroline et la série Saint-Louis-San-José qui se transporte du côté des Blues ce soir.